Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'empreinte de l'histoire qui est consacrée cette semaine au Canal du Midi. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on pourrait appeler son créateur, Pierre-Paul Riquet. Ce dernier a d'ailleurs consacré une grande partie de sa vie à la réalisation de ce projet ambitieux qui visait, je vous le rappelle, à relier l'océan Atlantique à la mer Méditerranée par la voie navigable. Grâce à sa vision et à son expertise, Riquet a réussi à surmonter de nombreux défis techniques et financiers pour mener à bien la construction du canal du Midi. La vie de Pierre-Paul Riquet était un exemple remarquable de persévérance, d'ingéniosité et de détermination. Riquet est né à Béziers. Entre 1604 et 1609, les sources restent relativement floues. Dans une famille de notables locaux, son père, Guillaume Riquet, est un notaire. Riquet, Pierre-Paul Riquet, en fils de bonne famille, a pu faire de solides études. Il aurait d'ailleurs fait ses études au collège jésuite de Béziers, puis aurait reçu une formation d'ingénieur. Mais ce n'est pas comme ingénieur que le Biterrois commence sa vie professionnelle. Pierre-Paul Riquet fut d'abord membre de l'administration de la Gabelle. Il était gabelou, c'est-à-dire douanier, chargé de collecter l'impôt sur le sel. Comme le sel était indispensable pour la vie quotidienne et professionnelle, vous pouvez aisément imaginer l'importance de cette administration. Bien sûr, entre les mains du roi. Rapidement, Riquet grimpe les échelons, il est receveur du grenier à sel de Mirepoix en 1645, sous-fermier des gabelles de Mirepoix et de Castres en 1647, puis fermier des gabelles du Languedoc en 1661. Or, un fermier des gabelles prélevait justement sa part sur la perception de l'impôt. Et donc, Riquet s'enrichit d'année en année. En outre, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier, car en parallèle, il monte une entreprise de transport du sel entre les entrepôts à sel de la Gabelle. Le 15 novembre 1662, Riquet présente son plan à Colbert, qui est alors intendant des finances du roi Louis XIV. Riquet semble avoir su convaincre le ministre du roi, ce qui, à l'époque, n'était pas chose facile car Colbert avait la réputation d'être cassant et glacial. Madame de Sévigné l'avait d'ailleurs surnommé le Nord. Riquet met en avant les avantages qu'il y aurait à construire un tel canal. Il développe des arguments économiques, enrichir le Languedoc, notamment en développant le commerce du blé et du vin, et stratégique. Le canal est prévu pour être suffisamment large pour faire passer les galères du roi en évitant ainsi la péninsule ibérique, qui était alors un ennemi du royaume de France. Quoi qu'il en soit, le ministre du roi décide de vérifier la faisabilité du projet et il ordonne une étude qui durera 2 ans. Et au bout de ces 2 années, le projet de Pierre-Paul Riquet est validé. Riquet dirige le chantier de construction du canal qui débute le 9 juillet 1666. L'ingénieur est tellement convaincu de l'intérêt de son chantier qu'il investit une partie de ses fonds propres dans l'aventure, soit près de 2 millions de livres sur les 6 millions prévus pour le chantier. En fait, c'est environ 18 millions de livres qui seront nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Pour vous donner une idée de l'importance des fonds engagés, le chantier du canal royal du Languedoc est le 2e chantier du règne de Louis XIV, après celui du château de Versailles. Pendant les 15 années de construction du canal, la santé de Pierre-Paul Riquet décline. Il est atteint de la goutte et est fréquemment touché d'accès de fièvre dû au paludisme. Pour l'aider dans sa tâche, Riquet associe à la construction du canal son fils aîné, Jean-Mathias, qui est d'ailleurs souvent son intermédiaire auprès de Colbert. Finalement, Pierre-Paul Riquet meurt à Toulouse le 1er octobre 1680, 1 an avant la fin des travaux du canal. Et malgré les promesses royales, il meurt endetté, obligeant ses 2 fils à vendre une partie du patrimoine familial. Il est inhumé à Toulouse, dans la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Pierre-Paul Riquet laisse au monde un héritage qui perdure à travers le canal du Midi et qui continue d'attirer des visiteurs du monde entier. Le chantier du canal du Languedoc illustre le savoir-faire des ingénieurs français en matière de construction de voies d'eau artificielles. Sur le modèle des canaux italiens ou flamands d'ailleurs. Sur le plan technique, le chantier languedocien comporte plusieurs défis relevés par Riquet et son adjoint, François-André Aussy. En effet, le canal possède une configuration particulière, car il est dépourvu d'une alimentation par des cours d'eau affluents ou des étangs. Ce qui implique la conception de bassins, et la mesure de génie tient justement au recueil des eaux de la montagne Noire dans le bassin de Nauruz. Mais l'innovation de Riquet ne concerne pas uniquement l'hydraulisme. Elle concerne également le domaine social, et c'est ce que nous allons voir avec l'histoire du chantier.
Alliance Plus.